Le journal Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. La droite parlementaire retoquée par le Conseil constitutionnel dans son projet de référendum sur l'immigration. Sur la thématique budgétaire en revanche, elle n'est plus la seule à brandir la menace d'une motion de censure.
Et c'est aussi la thématique des dépenses publiques qui inquiète le secteur associatif. Dans une tribune, il dénonce des restrictions budgétaires au détriment des plus fragiles.
Et puis nous verrons qu'aux États-Unis, l'État du Tennessee s'apprête à permettre à ses enseignants de porter une arme en classe. Quelle question du jour après journal, Marguerite.
Le miel naturel est-il en voie de disparition ?
À réponse à 7h15. Les mesures avaient déjà été retoquées par le Conseil constitutionnel lorsqu'elles figuraient dans le projet de loi immigration. Elles l'ont été à nouveau hier dans le projet de référendum proposé par les Républicains. La droite comptait en effet utiliser le RIP, le référendum d'initiative partagée, pour proposer aux Français de voter les mesures les plus restrictives de la loi immigration, celles que justement le Conseil constitutionnel avait rejetées. 5 dispositions au total, de la suppression de l'aide médicale d'État au conditionnement du versement des prestations sociales à une durée de séjour minimale, en passant par l'interdiction pour les déboutés du droit d'asile de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Hier, le Conseil constitutionnel a tout rejeté. Pour la droite, c'est un camouflet politique, mais d'un point de vue plus général, la décision rendue hier est importante, Stéphane Robert.
En janvier dernier, le Conseil constitutionnel avait évité d'examiner sur le fond les dispositions introduites par les Républicains dans la loi immigration. Il avait considéré qu'elles étaient des cavaliers législatifs, autrement dit qu'elles n'avaient rien à y faire car elles ne correspondaient pas à l'objet initial de la loi. Cette fois, il rend un jugement sur le fond, et en particulier sur l'article 1er qui conditionne le versement des prestations sociales à une personne d'origine étrangère à une durée de présence sur le sol français de 2 ans et demi minimum si elle travaille et de 5 ans si elle ne travaille pas. Et il dit que cette disposition n'est pas constitutionnelle. Explication Samy Benzina, professeur de droit public à l'université de Poitiers.
Il rappelle que les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Et il en conclut que fixer une durée minimale de 5 ans ou de 30 mois pour une activité professionnelle pour obtenir des prestations sociales est contraire au préambule de la Constitution de 1946. Donc il prend une décision qui est extrêmement importante, parce qu'il dit quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas très clair, c'est de savoir est-ce que ces propositions issues initialement de l'extrême droite sont conformes à la Constitution. Mais il nous répond en nous disant que au moins l'une de ces propositions issues de l'extrême droite, et en particulier celle qu'on qualifiait d'inspirer de la préférence nationale, elle est inconstitutionnelle.
On peut adopter des dispositions différentes à l'égard des étrangers, dit le Conseil constitutionnel, mais pas si celles-ci les privent des droits fondamentaux comme la solidarité nationale due aux personnes défavorisées ou le droit à une protection sociale. C'est par conséquent le principe même de la préférence nationale qui est en partie invalidé par cette décision. Une formation politique qui veut le mettre en place devra changer la Constitution.
La droite, déboutée de son RIP, brandit aussi la menace d'une motion de censure au Parlement. Elle l'a fait savoir ces derniers jours à propos d'un éventuel vote de budget rectificatif qui n'est finalement plus à l'ordre du jour. Mais dans l'opposition, des députés socialistes et Rassemblement national ont emboîté le pas. Hier, ils envisagent désormais, eux aussi, d'activer cet outil parlementaire pour sanctionner le dérapage budgétaire dont ils tiennent l'exécutif pour responsable. Des menaces qui sont, selon le politologue Jean Petaut, à prendre au sérieux. Écoutez-le.
La conjoncture politique, et qui est celle en particulier d'une proximité d'une échéance électorale nationale, peut être un élément propice à une démonstration de force des différentes formations politiques. Jusqu'à maintenant, les différents partis politiques susceptibles de voter la censure, d'une manière ou d'une autre, ne parvenaient pas à considérer qu'ils pouvaient tirer les marrons du feu de cette opération depuis 2022, c'est-à-dire depuis les dernières élections législatives. Aujourd'hui, je pense que la lecture est un peu différente. Pourquoi ? Parce que le président de la République et le Premier ministre sont quand même dans une phase baissière en matière de popularité. Il y a à l'évidence une fatigue et une usure politique de l'exécutif. Et après tout, c'est peut-être la fenêtre d'opportunité pour tenter le coup, d'une part de la censure et d'autre part de l'exposition au risque de la dissolution.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. large. Et le sujet budgétaire n'inquiète pas que les élus. Dans une tribune publiée hier dans le journal Le Monde associatif décrit son inquiétude quant au choix du gouvernement en matière d'économie budgétaire. Un collectif d'associations dénonce un gouvernement qui privilégierait dans son allocation des transferts sociaux davantage les acteurs les plus forts au détriment des plus faibles. En d'autres termes, Wafia Kenich, l'austérité à venir va toucher davantage les populations les plus fragiles.
Ce n'est pas aux dépens des plus précaires que l'État doit faire des économies. C'est ainsi que ces associations alertent sur une montée en puissance de la stigmatisation des plus fragiles socialement. Pour Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, il y a nécessité à maîtriser les dépenses publiques, mais pas à n'importe quel prix.
Ce qui est très problématique, c'est de voir que le gouvernement fait peser les efforts, d'abord sur les plus fragiles et sur l'accompagnement des plus fragiles. Vous parliez notamment des allocations pour les chômeurs en fin de droit. On pourrait parler aussi des moyens des associations pour accompagner les personnes dans l'insertion par l'activité économique, mais également sur le plan de la fiscalité, puisqu'on voit bien que le gouvernement, jusqu'à maintenant, en tout cas, se refuse à faire contribuer celles et ceux qui sont, je dirais, les plus à l'aise pour pouvoir financer la solidarité.
Financer la solidarité aujourd'hui et financer aussi les programmes d'ores et déjà annoncés. Carole Salaire, d'APF France Handicap, a des craintes quant à leur concrétisation.
À la conférence nationale du handicap, où on nous annonçait des crédits pour renforcer l'accessibilité des lieux publics ou encore des solutions pour mieux accompagner les enfants et les adultes en situation de handicap dans leur vie, hein, toute la transformation de ce qu'on appelle le secteur médico-social, on est très inquiet sur la mise en œuvre de ces ambitions alors qu'il y a des besoins très importants et des situations de vie très dures, hein, pour toutes ces personnes dans leur vie quotidienne aujourd'hui. Donc c'est aussi derrière, en cascade, hein, des ambitions de réforme publique annoncées qui, tout ce que moi comprends, n'auront pas lieu ou seront vraiment réduites à la portion congrue.
Ces associations demandent donc l'organisation prochaine d'un débat parlementaire et citoyen sur la dépense publique.
Et puis le gouvernement veut réformer l'accession au logement social en évitant que des personnes à trop haut revenu y restent à vie, annonce dans les Échos ce matin du ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, qui demande aux bailleurs sociaux un suivi plus régulier des revenus de leurs locataires. Par ailleurs, selon un bilan dévoilé hier, de plus en plus de communes ne jouent pas le jeu du quota de logements sociaux imposé par la loi SRU.
France Culture, il est 7h08, la suite du journal Anne-Laure Chouin. Et en Ukraine, les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine.
Un pilonnage qui s'apparente à une guerre d'usure à quelques encablures de la frontière russe. Dans la région de Soumy, l'armée de Moscou s'est même acharnée sur un village ukrainien, distant de 5 km seulement de sa frontière. Elle a bombardé et réduit à l'état de ruine Velika Pissarivka, 4000 habitants où se sont rendus les envoyés spéciaux de France Culture, Agathe Mahuet avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Écoutez leur reportage.
Un tapis de décombres dans ce qui reste du couloir de l'école et sous les bris de verre, dans la poussière, les photos des élèves. Au centre de Velika Pissarivka, les Russes ont tout détruit fin mars, en 10 jours seulement. Plus de 500 frappes, un vrai déluge, dit Arthur, le chef de la police.
Ils ont utilisé toute la gamme de leur armement. Les missiles, les bombes planantes, c'était en continu et d'une telle intensité, même les militaires qui ont vu Bakhmout disent qu'ils n'avaient jamais connu ça.
Des bombes qui semblent s'être acharnées sur la maison de Victor, 60 ans, l'air fatigué de ceux qui ont tout perdu. Un grand choc et des larmes, voilà ce qu'il ressent. Le grenier est tombé dans son salon, les radiateurs arrachés par le blast, tout est à refaire. La frénésie de frappe a eu lieu juste après une série d'incursions menées à la frontière par des combattants russes alliés à Kiev. Mais Victor se fiche de ses explications et soupire.
Ils nous ont visés juste parce qu'on est ukrainien. Moi je dis à ces cons de Russes, tu as vu où tu as lancé ta bombe. Tu l'as lancé sur des gens paisibles.
Il glisse que ses voisins russes ne sont plus des frères depuis longtemps. Ils ont tout gâché, dit Victor.
Agathe Mahuet. Pas de progrès en vue d'une trêve à Gaza, mais des tensions qui augmentent dans la région du fait de l'Iran notamment. Selon le président américain, l'Iran menace de lancer une attaque importante contre Israël. Signe de ces tensions, les États-Unis ont annoncé restreindre les mouvements en Israël de leur personnel diplomatique. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a en effet menacé de punir Israël après son attaque meurtrière le 1er avril dernier en Syrie, qui avait détruit le consulat iranien à Damas et fait 16 morts, dont 7 membres de l'armée idéologique d'Iran. L'Iran qui est par ailleurs accusé par la justice argentine d'être à l'origine des attentats terroristes les plus meurtriers du pays en 92 et 94, les attentats contre l'ambassade d'Israël et une mutuelle israélienne à Buenos Aires. Une décision de justice qualifiée d'historique par la communauté juive et qui ouvre la possibilité d'une plainte auprès de la Cour pénale internationale. On y reviendra dans le journal de 8h. Lutter contre les armes par les armes, ça paraît improbable et pourtant c'est la décision que s'apprête à prendre l'État américain du Tennessee. Il est sur le point d'adopter une loi qui autorisera le port d'armes aux enseignants dès la maternelle pour lutter contre les fusillades de masse dans les écoles. La perspective paraît folle dans un pays ravagé par les armes à feu. À Washington, Sébastien Paour.
Un revolver ou un pistolet caché sous un pull ou sous une veste pendant la classe, de la maternelle à la terminale, voilà ce que prévoit ce projet de loi qui doit encore être approuvé par la Chambre des représentants du Tennessee. Si le texte est adopté, l'enseignant volontaire devra se soumettre à un suivi psychologique et à une formation spécifique chaque année. Il devra posséder un permis de port d'armes et l'autorisation du directeur de l'établissement scolaire et du chef de la police de la ville. Les parents ne sauraient pas forcément si l'enseignant de leur enfant est armé. Tuer le projet de loi, pas les enfants, répondent les opposants au projet. Adopté au Sénat par 26 voix contre 5, un peu plus d'un an après une fusillade dans une école chrétienne privée de Nashville, qui a fait 6 morts, dont 3 enfants de 9 ans. Et alors que la violence par arme à feu est la principale cause de décès d'enfants aux États-Unis, 371 jeunes de moins de 18 ans tués par balle depuis le 1er janvier.
On termine ce journal avec une histoire des épidémies indissociables de l'histoire de l'humanité. C'est l'objet d'une exposition au musée des Confluences à Lyon. Elle ouvre aujourd'hui et ne parle pas du Covid, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En revanche, elle évoque toutes les épidémies précédentes. La peste qui contribua au déclin de l'expansion romaine, la grippe espagnole qui n'avait rien d'espagnol ou encore le sida transmis du singe à l'homme. Le concept de cette exposition n'est pas né à Lyon, mais au musée d'histoire naturelle de Washington, les précisions de Mathilde Imberti.
En mai 2019, la directrice du musée des Confluences visite l'exposition Outbreak à Washington sur les épidémies. L'idée titillait déjà l'équipe d'affronter ce thème bien avant même l'épisode Covid. Hélène Lafont-Couturier.
Il y avait cette approche One Health qui était présente dans l'exposition. C'est à la fois que la santé humaine, elle est dépendante de la santé environnementale et de la santé animale. En tout cas, c'était un sujet que je souhaitais qu'on aborde et effectivement traiter. Ce sujet-là, c'est pas facile et on s'interrogeait. Donc on est allé la voir par curiosité et l'idée est venue très vite de pouvoir trouver un mode de collaboration à partir de leurs données scientifiques.
Le lien, c'est Sabrina Scholz, commissaire de l'exposition de Washington. Elle rejoint le comité scientifique à Lyon, chercheuse et anthropologue au Simpsonian.
On a écrit l'exposition avec elle. Elle a validé tous les textes. On a un contrat avec la Simpsonian où on a acheté le droit d'utiliser les données scientifiques. Et le fait de travailler et d'engager Sabrina Scholz à nos côtés sur toute la durée d'écriture et jusqu'à le point final du dernier texte dans l'exposition était aussi une garantie pour eux d'exigences scientifiques tenues.
Il n'est pas si fréquent, précise la directrice du musée, d'aller puiser dans d'autres institutions une partie du matériel. Une autre exposition en ce moment aux Confluences, celle sur l'amour, est par exemple le fruit d'une collaboration avec le Palais de la Découverte à Paris. À chaque fois, les données sont adaptées à l'identité du musée des Confluences et enrichies de ses fonds propres dans un écrin architectural unique.
Un mot du temps de ce vendredi, calme et globalement ensoleillé. Les températures continuent de grimper entre 4 et 9 en général ce matin. 17 à 22 cet après-midi sur le nord-ouest. 20 à 24 sur le reste de la moitié nord. 23 à 27 au sud. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Anne-Laure, notamment d'avoir rattrapé le temps perdu par mes soins. À suivre, la question du jour, Marguerite Caton, le miel naturel.